Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On l'a appris ce matin, il y a plus de 130 cas d'Omicron en France. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? On sera en direct avec le docteur Guérin, nouveau membre du conseil scientifique. Des prêches anti-chrétiens, anti-homosexuels, anti-juifs à la mosquée de Beauvais. Gérald Darmanin a annoncé ce matin que la procédure était enclenchée. Nos informations avec William Molinier. Attention, si vous comptez partir en vacances en train sur l'axe sud-ouest ou l'axe sud-ouest, un préavis de grève a été déposé. Les syndicats veulent des augmentations de salaire et une prime Covid. On sera avec Fabien Villedieu de Sudrail. Des élus s'engagent pour défendre le foie gras menacé par des élus écologistes. J'appellerai le président du conseil départemental de Dordogne qui a signé un manifeste. Et puis le temps, c'est important, la tendance météo avec vous Anissa Haddadi. La journée va être la même qu'hier, hein ?
Oui, on prend exactement les mêmes ingrédients qu'hier et on recommence avec encore une belle différence entre le nord et le sud. Hein. Toujours beaucoup de soleil dans le sud et des nuages sur la moitié nord. Prudence sur les routes puisque par endroits, les brouillards de ce matin auront du mal à se dissiper. Et puis la douceur prime dans le sud aujourd'hui.
Merci beaucoup Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. Jean Castex a dit ce matin qu'il craignait un déploiement en France du variant Omicron. Il y a plus de 130 cas dans le pays, selon le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, avant de retrouver le docteur Guérin, membre du conseil scientifique, avec vous Céline Géraud. Bonjour Céline.
Bonjour Romain.
On va faire un point sur les consignes du conseil scientifique pour les fêtes. Qu'est-ce que préconise le conseil scientifique pour passer des fêtes, on va dire, sereinement?
Alors j'ai envie de vous dire que ça ressemble plutôt à une bonne piqûre de rappel et ce ne sera pas la dernière. Alors les bons réflexes pour limiter les contaminations à Noël. Règle numéro 1, limiter le nombre de participants, les grandes tablées, on oublie. Pratiquer un test antigénique la veille ou le jour même, le conseil scientifique encourage même les familles à mettre à disposition des invités des autotests. Le coût moyen d'un autotest est de 5 euros. Demander aux personnes fragiles ou non vaccinées de porter un masque autant que possible. Enfin, aérer les pièces au moins 10 minutes, toutes les heures, se laver les mains, désinfecter les surfaces du classique auquel nous sommes déjà habitués. Alors face à cette double menace des admissions à l'hôpital en hausse et du variant Omicron très contagieux, le conseil scientifique insiste vraiment sur le dépistage et la vaccination avant les fêtes et pendant les fêtes. Une raison d'y croire, eh bien le taux de reproduction du virus continue de baisser. Il est désormais de 1,11 à l'échelle nationale. Le pic de la cinquième vague sera atteint lorsque ce taux sera inférieur ou égal à 1. Nous en sommes donc tout près.
Merci beaucoup Céline. On est en direct avec le docteur Guérin. Bonjour docteur.
Bonjour.
Chef du pôle gériatrie au CHU de Nice et nouveau membre donc du conseil scientifique. On vient d'entendre les recommandations du conseil avec Céline Géraud. En les suivant, on va éviter de créer des clusters dans toutes les familles à Noël.
Oui, c'est ça. Et puis, alors, c'est pour le temps de Noël. Hein, et vous avez parfaitement résumé les recommandations de la semaine dernière dans notre avis. Et l'autre élément, je dirais que c'est plutôt pour le nouvel an. C'est où on sera dans une période de progression encore du variant Omicron. C'est d'éviter ce qu'on appelle les méga clusters et donc les grands rassemblements. Mmh. Là, on a vraiment besoin de gagner du temps pour se préparer. Hein, on a encore, nous, côté hôpital, la surcharge Delta liée aux incidences fortes qui commence à peine à montrer un ralentissement. Et avec le décalage hospitalier, on sait qu'on en a encore pour plusieurs semaines. Et l'Omicron, on l'a vu sur les pays voisins, et notamment la Grande-Bretagne, prend une place très vite et très importante en termes de contamination, même si on a une incertitude à l'heure actuelle sur la gravité derrière. Mmh. Mais en tout cas, le but, c'est de nous laisser un peu plus de temps pour le rappel, en premier lieu, pour que l'ensemble de la population puisse avoir effectué sa dose de rappel.
Alors, le variant Omicron, est plus contagieux. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous ne reconfinerez pas le pays?
Alors ça, pour le coup, vous savez, c'est pas le conseil scientifique qui confine, ouais. Pas le pays.
Non, mais vous avez l'oreille de ceux qui décident.
C'est effectivement l'exécutif. Écoutez, c'est difficile à dire. On va voir, vous savez, on avance. C'est un variant qu'on ne connaissait pas il y a encore un mois. On est en permanent avec les collègues d'Afrique du Sud, où on voit qu'on a quand même quelques formes graves qui apparaissent, même si elles sont peut-être moins nombreuses, mais la grande difficulté, c'est que c'est tellement plus contagieux et puis un peu plus résistant hein, au vaccin. C'est pour ça que le rappel est un boost d'immunité qui permet quand même aussi d'avoir une efficacité sur le variant Omicron. Ça, on le sait maintenant, mais à deux doses, c'est faible. Donc, on a vraiment besoin de gagner du temps pour ce rappel. Ensuite, le temps de doublement de l'Omicron en Grande-Bretagne, en ce moment, c'est 48 heures. Chez nos collègues danois, c'est 72 heures. Enfin, on voit que ça va très vite par rapport au Delta. Donc, je pense qu'il faut... On ne peut pas faire de la politique fiction. On va regarder ce qui se passe chez nos voisins britanniques, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus, on va dire, dans les 7 à 10 jours qui viennent.
7 à 10 jours. Et Boris Johnson, lui, a parlé de raz-de-marée hein, qu'il voyait arriver. Merci beaucoup, docteur Guérin. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h35.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Écoutez bien, si vous comptez prendre le train pour partir en vacances le week-end prochain pour Noël, la CGT, l'UNSA et Sudrail ont déposé un préavis de grève sur les TGV Sud-Est et Sud-Ouest. On est en direct avec Fabien Villedieu de Sudrail. Bonjour Fabien Villedieu. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Pourquoi ce préavis de grève ?
On est à une situation de blocage depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu la première période du confinement en mars 2020, voilà, les cheminots, comme beaucoup parlaient de la seconde ligne, ont joué le jeu. On a été au charbon, on a assuré les missions de service public, on a fait les TGV sanitaires. Voilà. Au regard de ça, on était en droit de se dire qu'il y aurait une reconnaissance qui serait faite. Bon, en 2020, on n'a pas eu cette reconnaissance, et en 2021, on n'a pas eu non plus cette reconnaissance financière. Donc, on s'est dit que là, la goutte, c'était la goutte de trop. C'est-à-dire que, un, il y a un effort énorme qui nous est demandé à faire sur le terrain, à gérer toutes les situations difficiles, de port du masque, des transports qui passent de beaucoup de trains à très peu de trains, voilà. Donc, tout ça, on a géré. On a eu énormément de sollicitations de la part de la direction, mais par contre, en termes de reconnaissance financière, on n'a pas eu le début du commencement de quoi que ce soit. Donc, à partir de là, en sachant que vu que les salaires sont bloqués à la SNCF depuis le 1er juillet 2014, donc nous entamons notre 8e année.
Donc, vous réclamez des augmentations de salaires. Combien d'augmentations ?
C'est un peu dans l'air du temps, d'ailleurs, si je tiens à préciser. C'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que tout augmente, sauf les salaires.
Alors, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, c'est parfaitement dans l'air du temps. En revanche, il y a des négociations salariales, c'est vrai, dans toutes les entreprises, enfin, quasiment toutes. Ce qui est moins vrai, c'est que toutes les entreprises ne bloquent pas le pays, surtout au début des vacances scolaires, que beaucoup de Français attendent et les Français sont fatigués.
Oui, de toute façon, une grève, c'est beaucoup de souffrance. C'est de la souffrance pour les voyageurs qui ne prendront pas sur leur train. C'est de la souffrance pour les cheminots.
Et c'est une souffrance qu'on peut s'épargner, non ? Franchement.
Mais le problème, c'est que donnez-moi la solution. Moi, je suis preneur d'une solution où, effectivement, on a fait une grève le 17 novembre. C'était un mercredi. Justement, on s'est dit, bon, bah voilà, on va faire ça un mercredi. On a fait une grève le 17 novembre. On a rassemblé jour de la négociation salariale. On a rassemblé 1000 cheminots sur le parvis devant la direction. Voilà. Il n'y a pas eu le début du commencement. D'ailleurs, personne n'en a parlé et la direction s'en est complètement foutue. Donc, on a fait la méthode gentille. On a essayé la méthode gentille. On s'est dit, voilà, on va essayer de faire un petit peu différemment. On va faire une grève le mercredi avec un rassemblement. Voilà, les lignes n'ont pas bougé. Donc, à partir de là, il y a un moment donné, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que les voyageurs et les salariés l'entendent très bien, si on veut augmenter nos salaires, il faut montrer les dents. Et pas qu'à la SNCF d'ailleurs, parce que vous savez, il y a énormément d'entreprises privées aujourd'hui qui font grève. Qui font à Décathlon, lorsqu'ils ont fait grève, ils n'ont pas fait grève, ils ont fait grève un samedi. Voilà. Donc il y a énormément de salariés qui savent que pour faire bouger les lignes, pour avoir un port de force, il faut faire grève. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes mardi. La grève, elle commence à part de jeudi.
Eh bien écoutez, espérons que direction et syndicats, comme on dit, trouvent la solution pour éviter cette grève qui impacterait la vie de nombreux Français. Je le répète, beaucoup de Français sont fatigués et ont envie de partir en vacances. Merci en tout cas beaucoup, Fabien Villedieu d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. C'est toute une ambiance, à propos de train, c'est toute une ambiance, un train de nuit. Je vous en parle parce qu'il va y en avoir de plus en plus des trains de nuit. Paris-Briançon, Briançon-Paris, Paris-Lourdes. Et Lourdes-Paris, et même des liaisons internationales comme le Vienne-Paris, un train entre l'Autriche et la France. Il a circulé cette nuit. Aurélien Fleureau a pris ce train pour Europe 1. Reportage, écoutez.
9h40, Paris, gare de l'Est, 14 heures de train depuis la capitale de l'Autriche. Ce trajet, c'est une première depuis 2007. Un réel plaisir pour Anna, franco-autrichienne, qui a voyagé avec son amie Charlotte dans un compartiment à place assise pour 29 euros.
On attendait avec impatience qu'il y ait de nouveau un train Vienne-Paris. Et parce qu'on adore la France et on adore Paris, et c'est pas du tout un hasard. Et on espère que ce train reste.
Trois allers-retours par jour pour l'instant. L'objectif sera de monter à un rythme quotidien en 2024. Mais pour cela, il faut des trains adaptés, notamment avec les cabines privatives que j'ai pu tester cette nuit comme une petite chambre d'hôtel. Le bruit du train en plus, mais très confortable, à partir de 89 euros la place. Augmenter le nombre de trains, c'est primordial pour Alain Krakowicz, directeur de Voyage SNCF.
C'est aujourd'hui l'État qui peut financer et commander ces trains de nuit en France, comme c'est le cas aussi en Autriche. Et donc on a des contacts avec un certain nombre d'industriels pour effectivement pouvoir relancer le nombre de voitures qui seront disponibles.
Et le prochain train de nuit européen qui passera par la France, c'est le Paris-Berlin, prévu pour la fin 2023.
Voilà, merci beaucoup Aurélien Fleureau. On change totalement de sujet. On va parler des fidèles musulmans de Beauvais qui se rendent à la mosquée, à la grande mosquée en l'occurrence. Ils entendent des prêches contre les chrétiens, contre les homosexuels, contre les juifs. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce matin qu'il enclenchait la procédure de fermeture de cette mosquée. William Molinier, du service police-justice d'Europe 1. William, que sait-on de cette mosquée, de la teneur des prêches qui y sont prononcées? Quelles sont vos informations?
Eh bien voilà, plusieurs semaines que les services de renseignement auraient identifié des prêches du vendredi qui incitent à la haine, à la violence et qui feraient l'apologie du djihad, des propos relayés sur YouTube et qui donc ont facilité le travail d'enquête. La préfecture de l'Oise a notifié vendredi dernier la fermeture pour 6 mois de la mosquée Bilal à côté du centre-ville de Beauvais. Comme nous vous le révélions la semaine dernière, une quinzaine de mosquées est encore dans le viseur des autorités et pourrait faire l'objet de fermetures dans les semaines à venir. Au total, 99 lieux de culte musulmans étaient soupçonnés de séparatisme. Des contrôles ont été effectués, au terme desquels 21 ont été fermés. Les responsables de la mosquée de Beauvais ont désormais la possibilité de faire un recours devant le préfet dans les 10 jours. Un autre recours est possible dans un deuxième temps, cette fois-ci devant le tribunal administratif.
William Molinier, merci William. Et puis on vient de l'apprendre, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, en charge notamment de sa sécurité, Alexandre Benalla et son épouse sont en garde à vue depuis ce matin. Ils sont entendus dans les locaux de la PJ à Paris. Les policiers veulent en savoir plus sur le contenu des contrats. On parle de 2 millions d'euros qu'il a signé avec l'oligarque russe Iskander Mahmoudov pour assurer sa sécurité et celle de sa famille sur la Côte d'Azur. Cette arrestation est intervenue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national financier pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. La garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, information de Louis Dragnel, chef du service politique et police-justice d'Europe 1. 12h42, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du foie gras. Vous savez qu'il y a, beaucoup d'attaques contre le foie gras, notamment provenant de certaines mairies écologistes, des élus de terrain où l'on fabrique du foie gras, où l'on produit du foie gras, eh bien, viennent de signer une tribune. Ils veulent défendre le foie gras. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h45, est-ce que vous aimez le foie gras? C'est synonyme de fête, c'est la tradition gastronomique française. Certains veulent la mort du foie gras et une cinquantaine d'élus ont signé une tribune pour sauver le foie gras. Parmi les signataires, il y a Germinal Perrault. Bonjour, vous êtes président du conseil départemental de Dordogne où on produit évidemment du foie gras. Pourquoi ce manifeste? Pourquoi cette tribune avec une cinquantaine d'élus? Le foie gras est en danger véritablement?
Bon, je pense que le foie gras n'est pas en danger, mais on a voulu contrecarrer ce que quelques maires d'Europe Écologie Les Verts sont en train d'essayer d'imposer par sectarisme, un sectarisme absolu. On voit bien que ces gens-là veulent imposer absolument à la population française leur mode de vie. Nous défendons le foie gras parce que ça fait des millénaires aujourd'hui, ça fait 6000 ans ou 7000 ans que les hommes se sont convertis. Les hommes étaient des prédateurs, c'était des chasseurs et des cueilleurs. Ils sont devenus des agriculteurs et des éleveurs. Et nous acceptons l'idée que l'on puisse élever des animaux dans notre pays, que ce soit des bovins ou des oies et des canards, pour les consommer. Je pense que c'est cette idée-là qui est remise en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on remet en cause, c'est le fait de tuer un animal. Mais nous acceptons l'idée que des éleveurs puissent élever des animaux, que ces animaux soient consommés par les hommes.
Ça veut dire que, malgré tout, vous avez peur que certains maires écologistes, comme vous dites, notamment à Lyon, mais c'est le cas dans d'autres villes, leur message infuse dans certains esprits, notamment chez les jeunes.
Ben, vous savez, c'est une attaque en règle. Hein. C'est une attaque en règle contre le monde rural, c'est une attaque en règle contre les agriculteurs, c'est une attaque en règle contre les éleveurs. Et ceux qui fabriquent du foie gras.
Bien sûr.
On le considère aujourd'hui comme une véritable agression. Et on a là des gens qui veulent imposer un changement parce que c'est leur façon de voir les choses.
Oui, vous leur dites si vous n'aimez pas le foie gras et que vous ne voulez pas en manger, n'en mangez pas. Mais non.
Celui qui n'aime pas le foie gras, il n'en mange pas. Aujourd'hui, tout le monde défend la question du bien-être animal. Et dans tous les élevages de France, quelles que soient les espèces élevées, je ne connais pas un seul éleveur qui ne prend pas soin de ses animaux. Je ne connais pas un seul éleveur qui aurait envie de voir souffrir ses animaux. Et aujourd'hui, d'énormes progrès ont été faits et il faut continuer à aller dans le sens du bien-être animal. Mais il ne faut pas vouloir interdire l'élevage en France. Aujourd'hui, c'est le foie gras. Demain, ce sera la viande bovine et on voit bien les attaques qu'il y a derrière. Une autre fois, ce sera les poulets. On a des gens qui veulent faire interdire le fait qu'on abatte des animaux pour les consommer. Mais vous savez, peut-être qu'un jour, ils vont découvrir la souffrance de la laitue, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin, on ne pourra même plus manger des végétaux. Donc je crois qu'il faut redevenir sérieux, il faut préserver les animaux, il ne faut pas les faire souffrir, c'est une évidence, mais il faut accepter l'idée que l'homme, dans la biodiversité, il a sa place, et que sa place-là, elle doit être mesurée. Mais il ne faut pas vouloir une nature qui effacera la présence de l'homme.
On a entendu votre message. Merci beaucoup, Germinal Perrault. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interview du président de la République qui sera diffusée demain soir sur TF1 est surprenante, ne serait-ce que dans sa forme et dans son annonce. C'est une interview qui ne sera pas en direct, annoncée 48 heures seulement avant sa diffusion, donc hier matin, et qui va passer à une heure de grande écoute sur une grande chaîne TF1 en l'occurrence. Donc, Louis Dragnel, à 5 mois de la présidentielle, est-ce qu'il ne faut pas y voir un signe de fébrilité du côté de l'Élysée ?
Clairement, oui. Et je peux vous dire que la percée de Valérie Pécresse dans les sondages a accéléré cette prise de parole d'Emmanuel Macron. En fait, il avait prévu de parler avant Noël, mais pas de manière aussi rapide. Et puis, un autre signe de cette inquiétude, l'émission a été enregistrée dimanche soir pour une diffusion demain à 21h, exactement le moment qu'avait choisi Valérie Pécresse pour répondre aux questions d'un média concurrent. Autant dire que ça n'a pas du tout plu à la candidate, d'où sa décision de saisir le CSA. Ensuite, pour ce qui est du contenu, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de préparer le terrain de sa campagne présidentielle. Le chef de l'État souhaite se présenter devant les Français pour faire le point, montrer qui il est vraiment, pour tenter de lever le doute chez ceux qui le trouvent ambigu et contradictoire, avec à l'appui des images d'archives personnelles, mais aussi de son quinquennat. Il veut aussi solder son bilan, explique un proche, se débarrasser de ce sujet tabou pour les présidents sortants et espérer ainsi se projeter plus facilement avec une image presque neuve. Un épisode de plus donc dans ce qui pourrait ressembler à une série télévisée, une sorte de trame imaginée par l'entourage du président pour tenter de susciter à nouveau le désir.
Voilà, Louis Dragnel, 12h51. Un petit coup de chapeau, bravo à notre journaliste Marion Gauthier qui a remporté hier soir le prix Varenne du jeune reporter pour son reportage sur une unité médicale spécialisée dans l'accompagnement des mineurs isolés à l'hôpital Robert Debré. Voilà, bravo Marion Gauthier, c'est une journaliste d'Europe 1 et elle a été récompensée. Il est 12h51, donc on va parler dans un instant d'un spectacle qui va être formidable. C'est la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. On commence à voir à quoi ça va ressembler. On a le temps de s'y préparer, c'est en 2024. Mais on a des informations pour vous. Restez bien avec nous, à tout de suite. 12h54, ça donne envie d'être déjà le 26 juillet 2024, hein, jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. C'est officiel, la Seine sera le théâtre de cette cérémonie. Le comité d'organisation en a fait l'annonce hier soir. Une cérémonie sur l'eau, inédite, en rupture avec les précédentes éditions des Jeux Olympiques. Cédric Chasseur avec nous. Cédric, bonjour.
Bonjour Romain.
Les architectes de cet événement, qui sera regardé par plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde, veulent casser les codes, comme on dit.
Oui, une cérémonie à l'image de ces Jeux innovantes et spectaculaires par le choix du lieu déjà. La Seine, 6 km, départ du pont d'Austerlitz, arrivé au pont d'Iéna, où se poursuivront ensuite les festivités. La structure même de la cérémonie aussi va à l'encontre de tout ce qui a été fait. Les plus de 10 000 athlètes habitués à clôturer l'événement vont l'ouvrir en défilant sur des bateaux. Et ce n'est pas anodin. Écoutez le président de Paris 2024, Tony Estanguet.
Quand on a été athlète, qu'on a participé à une cérémonie d'ouverture, c'est magique. Mais c'est vrai que c'est souvent des heures d'attente où on est debout dans les coursives d'un stade. Des fois aussi, après, on a un peu cette frustration d'avoir raté la première partie de la cérémonie où a lieu le spectacle. Là, l'idée, en permettant de commencer avec les athlètes, c'est qu'ils soient aussi au cœur de cette célébration.
Et ce sera une grande fête populaire puisque tout au long du parcours, les spectateurs pourront se masser sur les bords de Seine. Ce sera gratuit sur une grande partie. 600 000 personnes sont attendues.
600 000 personnes, Cédric, dont il va falloir assurer la sécurité. Il faudra assurer la sécurité aussi des athlètes.
Hein. Oui, et c'est des questions d'ordre sécuritaire qui sont au centre des discussions actuellement, comme le révèle la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu.
On a eu 50 réunions depuis le début de l'année avec le ministère de l'Intérieur, les organisateurs des Jeux, et tout ce travail va continuer. Une cérémonie hors stade, c'est du jamais vu, ça va être d'une ampleur énorme. Et donc toutes les forces de sécurité vont être mobilisées et nous allons aussi avoir un programme de valorisation de ces métiers pour emmener plus de jeunes vers ces métiers, de pouvoir faire en sorte que ça reste en héritage pour la France.
Voilà, tout est fait pour que rien ne vienne perturber cette grande fête. On espère évidemment que la météo sera de la partie. On a vu des images de synthèse avec des présentations. Ça donne vraiment envie. On a hâte d'être à ce 26 juillet 2024 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
Merci beaucoup Cédric, vous nous avez fait rêver. Voilà, faudra que Paris soit magnifique. Peut-être passer un petit coup de balai hein, avant le 26 juillet 2024. Mais d'ici là, on a le temps.